Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc pour la semi-plénière co-organisée par le comité exécutif de l'AFS et le RT environnement, enfin sociologie de l'environnement et des risques, le RT 38 donc de l'AFS. Nous avons aujourd'hui pour cette semi-plénière une thématique partagée autour de la question des inégalités sociales, mais je vais un petit peu plus la recentrer autour de la question du paradigme de la modernisation écologique et de ses effets, je dirais, performatifs en termes de, aussi bien sur les individus que sur leur, sur les effets sociaux et en termes aussi d'inégalités sociales. Aujourd'hui, trois intervenants. Alors, on a un tout petit peu modifié l'ordre de passage par rapport au programme pour des raisons de cohérence par rapport à ce qui va être dit. Donc, interviendra en premier Florence Rudolph sur la modernisation écologique et qui elle proposera donc un petit peu un cadrage de cette théorie, de ce projet paradigmatique en sociologie et plutôt en sciences politiques à la base, voire en sciences gestionnaires. Et donc, je pense que ça permettra aussi de débattre plus largement aussi de la place de la sociologie et de son expertise dans le champ de l'environnement et de la question aussi de ce fait de sa place au sein d'une critique par rapport aux questions d'environnement. Et deuxième intervenant, donc Jean-Louis Fabiani, qui nous proposera donc une intervention « Réforme de soi et injonction environnementale » qui porte, je dirais, sur la façon dont ce mode de pensée promu à travers ce paradigme de la modernisation écologique travaille le social et travaille en particulier les individus à travers un ensemble d'injonctions au changement comportemental et comment ces injonctions constituent un des éléments clés de l'intériorisation de l'idée, enfin de ce que moi j'interprète comme étant l'idéologie actuelle autour de ces questions d'environnement. Et dernière intervention, donc Jean-Baptiste Combi, qui nous parlera de la question de l'éco-citoyenneté et de la façon dont cette éco-citoyenneté instaure un ordre social inégalitaire, hein, je reprends les termes du titre, thématique qui est d'autant plus intéressante que cette notion de citoyenneté a fait référence clairement à la question universaliste et a collé à celle d'environnement qui la renforce encore plus. Et finalement, cette notion d'éco-citoyenneté est très intéressante à travailler dans sa déconstruction, en particulier parce qu'elle implique des formes de domination qui sont relativement diffuses et qui, justement, questionnent plus largement l'intériorisation de la domination, voire j'irais même jusqu'à parler d'aliénation en ce qui concerne l'éco-citoyenneté, mais ça pourrait être un débat à reprendre par la suite. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Florence Rudolph pour sa communication. Merci.
Merci beaucoup. Ça va ? On entend le... Ça marche, le micro ? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui et de présenter donc ce paradigme, la modernisation écologique. Donc, j'ai intitulé ma présentation une réponse à la société du risque. Et j'ai fait un PowerPoint, mais en fait l'essentiel de ma communication est quand même construite autour d'un papier. Donc le PowerPoint est juste un petit support visuel. Alors la modernisation écologique, finalement, c'est un programme d'action de grande ampleur qui s'est instauré, enfin qui s'est mis en place, qui est né finalement en réponse à la crise écologique et au diagnostic alarmé sur la modernité avancée et qui a vu le jour essentiellement dans les pays d'Europe du Nord. Hein, donc c'est un programme essentiellement qui a été théorisé et aussi mis en application aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi qu'en Grande-Bretagne également. Donc, l'intérêt, si vous voulez, de ce paradigme et de ce programme d'action, c'est-à-dire que là, on a vraiment effectivement de pair à la fois un cadre théorique et un programme d'action qui a été implémenté assez rapidement, enfin mis en pratique. L'intérêt, c'est comme je vous le disais, c'est dans les années 80, et donc on dispose actuellement d'un retour d'expérience finalement d'une trentaine, voire davantage d'années, et qui permet donc de mesurer, si vous voulez, les promesses qui étaient avancées à l'époque où cette expression a connu un succès et s'est imposée progressivement, et actuellement. Alors, ma communication, je la structure de la manière suivante. Je vais donc présenter dans un premier temps, si vous voulez, la manière dont les protagonistes de la modernité avancée, de la modernisation écologique, pardon, les protagonistes de la modernisation écologique ont communiqué sur ce projet, sur ce programme, donc la manière dont ils l'ont diffusé socialement, et aussi les attentes qui étaient avancées, les arguments qui étaient également présentés, et en soulignant déjà un certain nombre de critiques qui pouvaient se prononcer, s'exprimer à cette époque, et la manière dont récemment, bon, j'ai aussi construit ce propos autour d'un séminaire auquel j'ai été donc au début de cette année en Allemagne, qui confrontait des historiens et des sociologues, qui revenaient aussi sur ce paradigme-là, sur ce projet, et qui réactualisaient finalement des critiques. Pardon, et qui réactualisait des critiques qui étaient finalement assez peu audibles à l'époque. Donc, en fait, ce programme d'action, je choisis, si vous voulez, de vous le présenter autour de deux grands principes structurants. Deux grands principes structurants qui me semblent effectivement constitutif, si vous voulez, de ce programme. Bien sûr, on pourrait sans doute en évoquer d'autres, mais qui me semblent effectivement vraiment constitutifs de ce projet. Alors, la modernisation écologique, elle se présente à son époque, si vous voulez, comme une réponse pragmatique. C'est important quand on sait aussi le succès qu'a connu par la suite toute la sociologie pragmatique et le retour du pragmatisme dans les sciences sociales. Comme une réponse pragmatique, incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, et qui vise, si vous voulez, à réconcilier, ça c'est très important, à réconcilier l'économie et l'écologie. Hein, donc cette proposition, si vous voulez, ce pari de réconciliation, il s'exprime en réponse, finalement, à une transformation, une réponse au mouvement écologique qui, dans les années 70, en Allemagne, s'était affranchi du romantisme, en d'autres termes, s'était affranchi du conservatisme romantique écologique tel qu'on pouvait le connaître en Allemagne dans les années 30 notamment, et s'était associé aux forces de gauche pour se présenter comme un mouvement de modernisation et un mouvement de critique par rapport au capitalisme. Bon, je m'appuie par exemple sur le travail de Jens Ivo Engels, qui est historien, professeur à l'université de Darmstadt, et qui a fait son HDR d'ailleurs sur cette question-là, construit son HDR autour de cette capacité de l'écologie finalement à rompre avec un certain conservatisme. Or, la modernisation écologique, il faut bien comprendre que cette réconciliation entre économie et écologie, elle s'écrit vraiment en réponse à au mouvement écologiste, si vous voulez, qui s'était très clairement positionné comme une opposition critique au capitalisme. Alors, à l'époque, évidemment, il n'était pas question, si vous voulez, il n'était pas question finalement de la question de l'ajustement entre différentes cités au sens accordé par Boltanski et Thévenot, hein, puisque je parle plutôt d'un contexte allemand et une autre époque, mais en même temps, une lecture actuelle, évidemment, peut se profiter, si vous voulez, de cette interprétation. Et finalement, se dire qu'à ce moment-là, ce programme-là, il pourrait, enfin, de manière précurseur ou de manière précurseur ou sur un style précurseur plutôt, il pourrait illustrer, si vous voulez, ce qui est exprimé dans l'économie des grandeurs avec ces efforts d'alliance entre différentes cités, notamment la cité marchande et la cité écologique. Cela dit, comme on le sait, cette cité écologique, c'est d'ailleurs un des aspects qui a été aussi bien exploré à la suite de ces travaux-là, cette cité écologique, elle n'existe pas. Et il y a de fortes chances que quand on tente d'ajuster ou, si vous voulez, de faire rimer finalement écologie et économie, cet ajustement se fasse plutôt au profit finalement d'une logique marchande, voire d'une logique industrielle, et que finalement d'écologisation, il soit finalement peu le cas. Plus près, vous m'en... Oui. Bon. Difficile, le micro et en même temps le texte, mais bon, il faut y arriver. Alors, donc on a ce premier principe de réconciliation entre l'économie et l'écologie. Et on a également un deuxième principe important, mais je reviendrai en plus en détail sur ces deux principes. C'est juste pour bien situer d'emblée ce dont je veux traiter. Le deuxième principe, si vous voulez, c'est justement l'adoption de cette démarche pragmatique, incrémentale, et qui finalement se présente comme un nouveau rapport aux politiques. Un rapport, si vous voulez, qu'on connaît bien actuellement, qui est diffusé à travers la notion de gouvernance, qui est diffusé à travers la notion de négociation, à travers la négociation, finalement, la formation, je dirais, de table ronde plutôt que de table rase, pour reprendre une expression d'André Micou. Donc on a bien l'adoption d'une nouvelle méthode, la méthode pragmatique, et qui vise, si vous voulez, plutôt à jouer sur des situations concrètes, c'est-à-dire à partir, donc le principe de relocalisation, partir du concret, essayer d'impulser le changement à partir de situations existantes, c'est-à-dire d'ailleurs ancrer dans une constitution libérale et une économie de marché. Hein, évidemment, si on veut travailler au jour le jour, agir au plus proche, eh bien on part des situations existantes. Donc on a ce pari à la fois d'arriver à faire cohabiter des acteurs, des idéologies, des intérêts différents et de négocier petit à petit, de transformer petit à petit. Alors, ces deux principes, si vous voulez, étant présentés, j'en viens actuellement donc à la première partie. Quels étaient les arguments à l'époque, c'est-à-dire vraiment quand je m'appuie principalement sur un ouvrage qui s'intitule Greening the Millennium et qui est paru en 1997, donc c'est quand même déjà assez tardif par rapport, puisque je vous dis c'est le milieu des années 80 pour la modernisation écologique, mais qui dans la littérature scientifique est quand même assez exemplaire, puisque on a déjà à cette époque un retour, donc on a différentes, c'est un ouvrage collectif. On a différentes illustrations, différents points de vue, différentes écoles, et c'est assez intéressant de voir comment, déjà à l'époque, quels arguments sont avancés en faveur et, je dirais pas contre, la modernisation écologique, parce qu'à l'époque, le livre est quand même très élogieux, il y croit, hein, on sent que c'est quand même encore il y a un investissement, un engagement par rapport à ce programme-là, mais où déjà un certain nombre de limites sont quand même soulignées et donc on verra que ces limites-là, ou ces réserves plutôt, elles vont être actualisées par la suite, notamment à l'occasion de ce séminaire que j'évoquais, qui avait eu lieu à Freiburg en février 2013. Donc, pourquoi faire rimer l'écologie avec l'économie ? Alors, les arguments principaux, on a celui selon lequel l'internalisation des coûts environnementaux dans la conception des activités profite au développement économique et technologique. La recherche d'efficience constitue le principal pari sur lequel la modernisation écologique donc avance son projet de réforme des sociétés industrielles avancées. Donc, la prise en compte de l'environnement dans le processus de modernisation équivaut, selon les auteurs, à un passage obligé. Il s'agit de mettre à l'épreuve les sociétés industrielles avancées, elles ne peuvent pas se dispenser, si vous voulez, de transformer leur rapport à la nature. J'emploie ici le terme de nature avec beaucoup de précautions, mais bon, il demeure un terme qui fait partie de notre vocabulaire. Mais donc, il s'agit, si vous voulez, de transformer le rapport à la nature et donc de ne plus être dans une logique, si vous voulez, de prédation, de dégradation, d'épuisement des ressources naturelles, mais plutôt de précaution et de créer des synergies positives, toutes sortes, si vous voulez, de langages auxquels actuellement nous sommes bien habitués, puisque c'est le langage qu'on a vu aussi recycler à la fois dans la question du développement durable, qui finalement fait partie de notre vocabulaire actuel. Donc, selon ces auteurs, il existerait une alliance quasi naturelle entre économie et écologie. Et donc l'économie de demain se doit d'être écologique. Martin Jenicke, un professeur de sciences politiques important à Berlin, parle même d'effet gratuit en 1989 à propos d'une économie qui se renouvelle par ses infrastructures, soit par des investissements dans de nouveaux processus de production et des secteurs de pointe. Et donc cette analyse, si vous voulez, est appuyé par des trajectoires exemplaires. Notamment, on connaît bien aussi le rôle de leader européen de l'Allemagne sur toutes ces questions d'écologisation de l'économie, du développement de nouveaux secteurs, de nouveaux marchés, etc., de nouveaux métiers. Et finalement, ce sont des promesses ou des attentes qui demeurent toujours d'actualité dans une certaine mesure. Néanmoins, déjà à l'époque, et on verra que ces critiques, ces réserves plutôt, pardon, déjà à l'époque, un certain nombre quand même de préoccupations, mais assez peu audibles, s'expriment, notamment que les améliorations attendues ne sont pas toujours au rendez-vous et qu'il n'y a pas une relation de cause à effet simple entre la transformation macroéconomique de secteurs industriels polluants vers des secteurs moins polluants et l'état de l'environnement. En d'autres termes, les gains obtenus par ce type de transformation macroéconomique ne vont pas toujours au profit de l'environnement. Ou même, ex-réserve aussi qui s'exprime à l'époque, ne vont pas toujours au profit d'un progrès social. Donc, le couplage vertueux entre développement économique et amélioration de l'environnement n'est pas toujours au rendez-vous. Dès cette époque, sont soulignées des choses aussi qu'on connaît bien actuellement, la notion d'effet rebond, c'est-à-dire que, par exemple, le gain de productivité ou le gain qu'on va faire en introduisant des innovations technologiques qui vont permettre, par exemple, de consommer moins d'essence ou d'avoir moins de rejets dans le catalyseur, par introduction de catalyseurs, etc. Enfin bref, on pourrait rentrer dans des sophistications technologiques, mais ce n'est pas mon intention ici, mais le gain qu'on peut avoir va se retrouver, par exemple, dans un sursaut de consommation. Donc, en fait, on a de plus en plus de consommateurs d'automobiles propres, par exemple. Donc, les effets rebonds, mais aussi déjà, alors on est déjà aussi dans un contexte de globalisation et de marché commun, etc., la délocalisation d'activités polluantes. C'est-à-dire qu'un territoire peut effectivement connaître une amélioration certaine de son environnement, voire même de ses conditions de travail, etc. Donc la dimension sociale associée aussi à la dimension environnementale. Mais pour autant, les pratiques ou les productions qui étaient impactantes ont été délocalisées dans d'autres régions qui, elles, ne connaissent pas ces améliorations. Donc, ces observations attirent déjà l'attention sur l'importance de procéder à une comptabilité globale avant de juger des résultats de la modernisation écologique. Dans une économie globalisée, les progrès enregistrés par les uns ne peuvent pas être découplés des résultats des autres. Il convient de vérifier, en d'autres mots, que les gains enregistrés sur certains sites ne correspondent pas à un accroissement des inégalités écologiques ailleurs. Donc, ce type de réserve, évidemment, entre en résonance avec les critiques formulées par les courants marxistes et néo-marxistes de l'époque. Plus que 5 minutes, waouh. Bon. Et donc, mais qu'on va retrouver effectivement davantage formulées à notre époque. Alors, ça, c'était par rapport aux arguments, si vous voulez, concernant l'ajustement, finalement, entre deux cités, ou plutôt la réconciliation entre économie et écologie. Par rapport à la méthode pragmatique. Alors, la méthode pragmatique, j'ai déjà évoqué l'idée de la gouvernance, l'idée justement de faire table ronde, d'être dans la négociation, plutôt d'une approche systémique, c'est-à-dire qu'on n'est pas entièrement dans le rejet du paradigme du guichet incarné par les pouvoirs publics ou du marché, mais plutôt dans une hybridation des deux. Donc on trouve déjà ce genre de réflexion. Mais évidemment, on comprend bien, et ça on l'a aussi bien déjà en sciences politiques aussi, les critiques qui ont été formulées par rapport à la gouvernance, évidemment le type de cercle vertueux ou de synergie vont beaucoup dépendre aussi de l'aptitude, des compétences finalement locales et de la capacité des acteurs locaux ou des territoires à effectivement créer de telles synergies. Et finalement, l'aptitude des acteurs à se saisir des enjeux, à se constituer en public, à se saisir des informations, bref, à entrer dans cette modernisation écologique. Donc, si vous voulez, la question justement de la délocalisation ou par exemple de ce développement asymétrique, on la retrouve aussi illustrée par cette croyance en la gouvernance et dans ce système de construction finalement des territoires au niveau local. De la même façon, déjà aussi à cette époque, on souligne bien que par rapport à ces transformations sociales qui sont parfois implémentées ou qui sont sollicitées, il va être plus simple finalement d'adopter, si vous voulez, des pratiques de retraitement des déchets, etc., que de vraiment transformer des logiques d'organisation, des rapports de production. Et donc déjà, ce type de réserves sont quand même mis en évidence. Donc, voilà un peu le tableau au moment où la modernisation écologique est la plus créditée, si vous voulez, de transformation conséquente. Alors, l'actualisation de la critique. Pourquoi cette actualisation ? Bien parce qu'effectivement, la modernisation écologique n'a pas apporté toutes les attentes qui étaient attendues. Et que l'enlisement durable dans une économie duale, avec une détériorisation des rapports sociaux, même en Allemagne, a contribué justement à revenir sur cette promesse. Alors, les principales critiques qui s'expriment, ce sont les suivantes. J'ai sauté, mais c'est pas très grave. Substituer donc des parties sans toucher au cadre. Alors, pour les sceptiques les plus convaincus, la modernisation écologique ne révolutionne rien. Elle ne touche pas au rapport de production, ni à un mode de production. Il n'est pas question d'abandon du salariat par le développement des coopératives. Et de la cogestion. Et encore moins d'abolition de la propriété privée. Elle se limite au mieux à une réforme en profondeur des manières de mettre au travail les hommes et les ressources naturelles. Et il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un programme de transformation, finalement, de notre économie, mais finalement juste d'une réforme. Alors, cette illusion, si vous voulez, d'une transformation sans transformation, elle est parfaitement illustrée par Stefan Wolf, avec l'image qui vous parlera peut-être un peu moins, mais de la saucisse de tofu dans le restaurant universitaire. Saucisse de tofu qui remplace la traditionnelle bratwurst ou saucisse grillée à laquelle tout ressortissant allemand associe des souvenirs d'enfance. La saucisse de soja illustre parfaitement le projet de la modernisation écologique. Une partie du tout est substituée à un autre sans que le cadre ne soit affecté. Et on peut comprendre ce tour de passe-passe en revenant justement à la question des cités et à de l'économie de la grandeur et à leur capacité à s'articuler. Quels sont les arguments qui peuvent faire bouger les économistes classiques? Quelles sont les informations qui arrivent jusqu'à eux? Celle de la rareté, Pour un économiste classique, si vous voulez, la préoccupation principale n'est pas tellement quel type de société va nous permettre de repousser l'effet de plafond qui grippe le système. En d'autres termes, c'est simplement de repousser ce seuil. De la même façon que pour un écologiste technocratique et autoritaire, la question sociale se pose peu. Donc, en conclusion... Oui, je crois que c'est presque ça. Non, ben, c'est pas grave. J'ai fait un PowerPoint, mais j'ai mon texte. En général, c'est assez découplé. Donc, la modernisation écologique, finalement, elle œuvre surtout à une stratégie de dépolitisation au service d'un processus de modernisation continue. Finalement, elle a opéré une fermeture idéologique. Elle ne mise pas sur des stratégies qui romperaient avec la dynamique de l'Occident. Le développement durable, croissance durable, ainsi que le potentiel de transformation des technologies forment l'horizon d'après lequel s'orientent les acteurs et les porteurs d'innovation. Cette orientation entretient l'idéologie du progrès. Elle fait miroiter un dépassement de la crise sans rupture, sans changement. Elle neutralise les rapports sociaux et les formes sociales, marginalise les quelques voies porteuses de changements réels. Il s'agit de la promotion d'un projet hégémonique fondé sur une vision mystificatrice de la modernisation écologique et finalement qui s'oppose à la formation d'alternatives consistantes. En conclusion, j'ai une minute juste pour la conclusion. Il semblerait aussi que ce qui oppose finalement les protagonistes de la modernisation écologique et leurs critiques, c'est finalement un rapport à l'action et à la transformation sociale. Pour les uns, la transformation sociale s'inscrit inexorablement dans l'affrontement entre des grands paradigmes et systèmes de production de la société, alors que pour les autres, elle s'effectue à partir de l'existant, c'est-à-dire de manière incrémentale. La dépolitisation n'a pas le même sens dans la bouche des uns et des autres. Ce que les uns dénoncent équivaut pour les autres à la promotion d'une nouvelle culture politique. L'adoption de la démarche pragmatique, qui consiste en la relocalisation des grands conflits de valeurs, profite à de nouvelles compétences d'acteurs et par conséquent également institutionnelles. Donc, c'est la figure de la table ronde plutôt que celui de la table rase. Ce récit-là est de plus en plus remis en question, même dans les pays qui, comme en Allemagne, ont le plus misé sur cette approche, à mesure finalement que le climat social et que la situation écologique, d'un point de vue global, se dégrade. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup Florence pour cette présentation qui fait office aussi un petit peu de cadrage par rapport au débat que nous aurons. Alors que je propose qu'on ait à la fin des trois présentations parce qu'il y a vraiment une progression dans l'analyse de ce cadre théorique qui a en tout cas été très dominant en sociologie de l'environnement et qui perdure, je dirais, surtout dans les milieux anglo-saxons, à être un élément essentiel et qui, effectivement, comme tu l'as dit, soulève un certain nombre de questions, notamment la place centrale que tient la solution technologique et gestionnaire dans la prise en charge des questions d'environnement et qui aboutit aussi à une forme de dépolitisation de ces enjeux et avec une dimension particulière qui est de jouer ce que tu as aussi précisé sur cette ambiguïté qu'il y a entre un projet de transformation de la société et sa dimension en fait terriblement normative, intégratrice et finalement qui vise au contraire à reproduire voire à développer le mode de développement économique qui est une des sources du problème soulevé par ces mêmes théories. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est l'idée, quoi. Voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Louis Fabiani pour sa présentation Réforme de soi et injonction environnementale.
Merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez. Oui. Voilà. Oui, je vais coller. Je remercie le RT 38 de m'avoir invité à parler de sujets que j'ai beaucoup étudiés autrefois et que je recommence seulement depuis quelques mois à travailler. Donc ma présentation sera un petit peu incoative et bricolée. En tout cas, elle se situe très précisément entre celle de Florence Rudolph et celle de Jean-Baptiste Combi. Et je paverai la voix pour le dernier intervenant, je crois. Alors, les idéologies de l'écologie radicale et celles de la modernisation écologique, dont Florence Rudolph vient de faire une analyse tout à fait précise, si éloignées sur bien des points, particulièrement par rapport à la question de la production, ont toujours quelque chose en commun, ce que j'appellerais une méfiance constitutive à l'égard de l'instance du social. L'écologie en général propose un changement de paradigme, un changement de regard sur le monde et offre à tous et à toutes un programme de réforme de soi comme condition nécessaire à la survie de l'humanité. La saucisse de tofu est un exemple. L'injonction à changer est permanente. Changer de mode de vie, mais aussi, conjointement, changer de mode de conceptualisation des rapports entre les individus et entre les groupes. La littérature prophétique sur le sujet a maintes fois insisté sur le fait que l'émergence de mouvements sociaux écologistes rendait obsolète une représentation de la société en classe. Bien qu'Alain Touraine, après quelques tentatives, ait constaté, pour finir, l'incapacité des nouveaux mouvements sociaux à prendre le contrôle de l'historicité et à se substituer aux classes dominées d'antan, son diagnostic n'a pas empêché que personne n'ait vraiment opéré, au moins pour ce qui est de l'usage des ressources naturelles, un retour à la formule canonique de la lutte des classes. La résistance à l'objectivation, souvent remarquée par les chercheurs, participait d'une hostilité plus générale des écologistes à l'égard de conceptualisations qui pouvaient chercher à établir un lien entre une position de classe et une prise de position sur la nature. S'il fallait réformer les usages des ressources naturelles, il convenait aussi de se doter d'une autre représentation savante des pratiques sociales. Les sociologues amis de l'écologie développèrent ainsi tout un arsenal contre la sociologie standard, mainstream ou institutionnelle, arsenal appelé à réduire en poussière l'ennemi qui continuait de se référer à une forme de causalité sociale. C'est l'objet d'une discussion amicale que j'ai eue dans la revue Esprit, il y a maintenant 14 ans, autour du livre de Bruno Latour, Politique de la nature, avec Luc Boltanski, qui voyait, lui, une révolution de la pensée politique. L'anthropologie de Bruno Latour, indépendamment des immenses mérites qu'on peut lui trouver, est constamment traversée par une forme d'antisociologie, où le malheureux Durkheim fait figure de bouc émissaire. Il ne s'agit pas ici de polémiquer, loin de là, mais de constater la construction d'une scène argumentative où la référence à l'écologie est le cheval de Troie d'une pulvérisation des notions de classe, de conflit et de contradiction. Comme beaucoup de mouvements dans les sciences sociales, les discours inspirés par l'écologie sont en bonne part de l'ordre de la rhétorique. Les sociologues en particulier aiment changer de lexique et faire du bruit dans le champ consiste le plus souvent à introduire de nouveaux mots. Cette exubérance lexicographique est bien sûr un élément important de ce tournant écologique des sciences sociales. La modernisation écologique peut être considérée comme le point d'aboutissement de la dissociation entre, d'un côté, ce que j'appellerais une forme activiste de l'écologie, laquelle, avec des degrés de radicalité divers, a constitué la question environnementale comme problème public, au sens que Joseph Gosfield donnait à ce terme, et a donc été le vecteur principal de sa première institutionnalisation, et d'un autre côté, ce qu'on pourrait appeler, ce que Florence Rudolph a décrit très précisément, une forme experte qui s'est efforcée de dépolitiser l'objet et de le rendre compatible avec des modes de gestion techno-bureaucratique susceptibles de légitimer son expertise. Au cours de ce trajet, le mode de production capitaliste cesse d'être considéré comme la cause de l'épuisement des ressources naturelles. C'est plutôt à de mauvaises techniques de production qu'il faut attribuer les dysfonctionnements. L'expertise environnementale permet de remédier à la mauvaise utilisation des ressources. On peut continuer de produire, mais d'une autre façon, dans le cadre d'un capitalisme éclairé par la science. Un tel optimisme technologique n'est pourtant pas entièrement délivré de l'injonction morale qui constitue l'écologie politique, mais il n'en tient pas compte dans la construction de son principe fondateur. Comment concevoir la nouvelle donne productive si on ne l'accompagne pas d'une transformation morale des producteurs et des consommateurs ? Alors le problème, bien entendu, ce sera celui de l'équilibre entre producteurs et consommateurs sur lequel je reviendrai. En effet, toute forme d'écologie est un mélange complexe, de savoir expert, d'injonction morale et de choix esthétiques qui constituent aujourd'hui l'idéologie de l'écologie. La radicalité perdue par la modernisation écologique est le signe d'une transformation profonde du message écologique. Il s'agit d'un véritable aggiornamento qui passe par une modernisation au sens propre du mot, se débarrasser, Florence l'a dit, des archaïsmes de l'écologie militante, retour à un état plus proche de la nature, technophobie, projet de décroissance, pour en faire le nouveau grand récit de ce que j'appelle la contemporanéité heureuse. Le succès instantané de notions jamais véritablement clarifiées, comme celle de développement durable, ou le verdissement, greening, tout aussi rapide d'industries polluantes, est assez peu interrogé dans la mesure où ce changement de vocabulaire, sans doute plus que de pratique, a été rapidement pris comme allant de soi. Le discours environnementaliste est passé de la périphérie des minorités actives au discours dominant, et la modernisation écologique est le signe de ce passage. Construit autour de la critique corrosive des institutions de savoir ou des pratiques industrielles, le discours écologique est devenu, dans ce processus, leur meilleur lubrifiant. Aujourd'hui, le contraste entre le succès de l'environnement comme récit et l'état de la planète est saisissant. Le chevauchement permanent du discours apocalyptique des minorités radicales, qui savent aussi, on le voit ces jours-ci, à certains moments faire preuve d'un réalisme politique confondant, comme la situation politique contemporaine de la France le montre, de façon presque caricaturale, et d'un autre côté du discours gestionnaire, est une des caractéristiques de ce que j'appelle l'idéologie écologique. Si le second, c'est-à-dire l'écologie modernisée, travaille essentiellement à produire de la normativité technique et de la croyance en l'efficacité de l'expertise environnementale, le premier, l'écologie profonde, fonctionne essentiellement à l'échelon de la réforme de soi et de la transformation des styles de vie. Les formes injonctives qui appellent à de nouvelles pratiques s'inscrivent dans l'histoire longue de la domestication des classes populaires. De mauvaises pratiques doivent être abandonnées au profit de comportements réglés par des exigences morales et un sens des responsabilités qui fait défaut aux populations non familières avec ce type de discours. On pense évidemment à l'hygiénisme, dont sur certains points l'environnementalisme constitue un prolongement ou un doublé. L'écologie s'appuie sur une discipline du corps qui s'intéresse moins à l'intensité des consommations qu'à leur caractère formel. Je donnerai un exemple très simple, pris de la région où j'habite. La plaisance populaire dans la région marseillaise, qui s'appuie sur la pratique de petites barques à moteur, pointues ou barquettes, est très souvent stigmatisée pour son caractère polluant et pour son caractère prédateur, alors que la plaisance bourgeoise est considérée comme un sport écologique où seules sont mises à contribution des ressources renouvelables et où se développe toute une gamme de sensations esthétiques, une véritable synesthésie avec la nature. Peu importe que l'empreinte carbone soit plutôt défavorable au second, car les premiers passent plus de temps à réparer leur bateau qu'à sortir en mer et ne s'aventurent guère à plus de 100 mètres du rivage. En revanche, on sous-estime volontiers le coût environnemental de la voile, existence de moteur, plus puissant souvent que celui des barquettes, aménagement portuaire, remorquage, plastique, etc. On retrouve ici, en gros, mais assez précisément quand même, la logique de la distinction de Pierre Bourdieu. Le style de vie, la morale et la connaissance forment un ensemble indissociable qui permet de reconnaître les groupes sociaux en fonction de leur rapport à la nature. Ignorance et prédation sont associés et permettent le développement conjoint du dégoût esthétique et de l'indignation morale. L'exemple de la chasse, que j'avais analysé il y a très longtemps, en est un bon exemple et je ne reviendrai pas là-dessus. Il suffit de constater depuis une vingtaine d'années les transformations de la pratique de la chasse depuis la description que nous avions donnée avec Jean-Claude Chamborodon. Réduction drastique du nombre des chasseurs, élimination d'une partie significative des chasseurs appartenant aux classes populaires, gros cons condamnés d'avance, tendance à la généralisation de la chasse comme loisir de luxe. La morale de l'histoire, mais vous ne serez peut-être pas d'accord, pourrait être ainsi racontée. Des membres des classes moyennes militent, sans en être pleinement conscients, pour ce que Chamborodon appelait le devenir parc de la nature, et il travaille, ce faisant, à éliminer les classes populaires de l'espace rural au profit des classes supérieures qui entendent se réserver le monopole de la violence cynégétique au motif qu'elles seules peuvent l'exercer avec style, ou plus, pour parler comme Elias, qu'elles ont réussi une opération de stylisation de la violence et de neutralisation de la prédation. Les classes moyennes, équipées par Décathlon en uniforme quechua, découvrent avec enthousiasme les loisirs de pleine nature. Loisirs de pleine nature, c'est une notion très intéressante, qui les différencie des sports pratiqués dans les lieux consacrés au sein d'associations et souvent par des jeunes issus des classes populaires. L'étonnant de la modernisation écologique ne comprendrait sans doute pas ces propos. pour eux, en particulier pour Moll, en 1995, au moment de la prise de pouvoir néerlandaise au sein du mouvement, puisqu'effectivement, comme le disait Florence, les Allemands ont lancé ce programme, qui est un programme moins connu en France qu'on devrait peut-être, mais qui a eu des effets sur la sociologie, les sciences politiques et les sciences de gestion extraordinairement importants. Il ne s'agit pas, justement, d'associer l'écologie à la pensée critique. Il s'agit au contraire de pratiquer une opération de dissociation, de désarimer l'écologie de la pensée critique. Le rôle, dit Moll, du mouvement environnemental doit basculer de celui du commentaire critique à l'extérieur des développements sociétaux et doit aller vers la participation critique toujours, mais et indépendante, mais à des développements visant à la transformation écologique. Intégration politique par une médiation technicienne et assez clairement dépolitisation, Florence le disait, des enjeux écologiques, puisque le principe et le moteur de cette conceptualisation, c'est l'intérêt bien compris des individus, pour autant qu'ils soient informés par les experts, qui garantit le repassage à une attitude moderne à l'égard des ressources naturelles. La réforme de soi ne découle plus d'un arrachement à des comportements irrationnels et prédateurs, mais est la conséquence naturelle et heureuse du succès d'une théorie sociale, ces mots sont employés, dans la société. Elle n'implique plus le développement d'une critique radicale de la consommation, telle qu'elle existe au sein du capitalisme contemporain, mais rend possible l'émergence d'un éco-consommateur qui ne diffère de son prédécesseur que par le type de produit qu'il consomme et non par ses pratiques sociales. Il convient néanmoins, parce que j'ai grossi le trait, de nuancer ce point de vue. En une vingtaine d'années, les modernisateurs ont eu le temps d'affiner leur construction théorique et ont en partie intégré ou réintégré, puisque c'est l'objet de ce colloque, de ce congrès, hein, la domination et la question de la sociologie critique, ont réintégré la dimension critique dans leur conceptualisation. À l'idée selon laquelle la modernisation écologique aurait perdu toute capacité critique au cours de son institutionnalisation, Geert Spargaren, l'autre leader de la branche hollandaise, rétorque que les versions les plus récentes de la théorie, c'est au milieu des années 2000 qu'il écrit ça, sont capables de combiner une préoccupation centrale pour l'éco-efficacité et l'éco-rationalisation avec un souci égal des comportements sociaux. Qu'entendre par là ? Spargaren utilise la notion de consumption junction pour éclairer son propos. C'est au point de contact de l'offre productiviste du marché et de la logique quotidienne de la consommation ordinaire que se situe le potentiel modernisateur. Les innovations vertes se répandent de plus en plus vite dans les sociétés et offrent un champ expérimental pour étudier les formes d'appropriation sociale dont elles sont l'objet. Le verdissement, greening, des pratiques sociales devient central dans la problématique renouvelée de la modernisation écologique. L'incorporation sociale des écotechnologies invite à s'interroger sur la théorie de la pratique. Ce sont les termes mêmes qu'utilise Spargaren. Si l'innovation verte est simplement offerte sur le marché parmi d'autres produits qui n'ont pas été verdis, quels vont être les déterminants du choix du consommateur ? Les théories de la pratique, selon Spargaren, insistent sur le caractère routinier et pragmatique de la consommation ordinaire. Je dirais plutôt, dans une tradition à la Bourdieu, pré-réflexive. L'incitation à changer de pratique doit donc s'exercer au niveau du style de vie, en général, plutôt que des produits en particulier. Et donc, on voit très bien comment le premier paradigme qui dit « bon, on verdit la production industrielle, on offre de nouveaux produits, et du coup, le consommateur a fait d'autres choix mais sans changer en fait lui-même de pratique et un petit peu dévié au profit précisément de la question du style de vie. On se souvient en effet que chez les fondateurs de la modernisation écologique, l'accent était mis plutôt sur l'offre que sur la demande. Le changement ne peut pas venir des consommateurs, si l'on en croit Joseph Huber, qui était un des premiers penseurs de cette modernisation du côté de la gestion. C'est donc du côté du verdissement de la production qu'il faut faire porter ses efforts. Le consommateur choisira une voiture verte si l'on ne propose que des voitures vertes. Et cette première version, disons, de la modernisation écologique revient, là aussi je durcis un peu le trait, à laisser l'agency, la capacité de choix, la capacité critique des consommateurs au garage et à centrer la modernisation écologique sur la production. Alors, l'alternative que propose Spargaren à ce modèle n'est pas entièrement claire, et on pourra peut-être en discuter. En faisant appel à des penseurs néo-marxistes pour étayer son propos, il fait clairement retour vers la pensée critique sans percevoir les contradictions qui existent entre socle de la modernisation écologique et la critique générale de la consommation au sein du capitalisme qui était au principe de l'écologie radicale. La référence à la notion que nous devrons aborder, je pense, dans la discussion, puisqu'elle a été, et c'était en filigrane de l'intervention de Florence Rudolph, au principe, de ces discussions, puisque le travail sur la société du risque d'Ulrich Beck a été un profond tournant dans l'ensemble des réflexions théoriques à ce sujet. La référence donc à la modernité réflexive suffit chez Spargaren à clore le débat sans qu'on voit nettement ce que pourrait être justement un consommateur réflexif. Et on s'approche là du citoyen tel qu'il est modélisé par un certain nombre de ses discours. La notion proposée par Ulrich Beck, modernité réflexive, a soulevé suffisamment de difficultés pour que j'y revienne ici longuement, et je ne serai pas compétent d'ailleurs. Disons simplement, pour le rappeler, pour qu'on ne se trompe pas de débat, qu'il s'agit d'une réflexivité des citoyens, qu'il ne s'agit pas par contre d'une réflexivité des citoyens qui viendrait mettre fin à la domination dans la pratique, de la pratique pré-réflexive, ou de la pratique sous forme d'habitus, qui fait que je ne rationalise pas dans le cours de l'action ce que je fais, au profit d'une parfaite conscience de soi. Ça, ce serait une réflexivité qui n'est pas du tout programmée par Beck, mais c'est le constat selon lequel, au fond, le vieux schème cartésien de la maîtrise, de la possession de la nature, n'est plus quelque chose qui est à notre portée et que cette conscience, au fond, est aujourd'hui partagée. C'est ça la société du risque et la société de l'incertitude, qu'au fond, cette maîtrise et possession de la nature n'est plus un programme, mais une fiction tragique. Alors, autrement dit, le retour du social, au fond, sous l'espèce du consommateur actif, dans ce que j'appelle, mais je ne sais pas si c'est orthodoxe, la deuxième modernisation écologique, reste tout à fait modéré et apparaît plutôt, à mon sens, mais on pourra en discuter, comme un travail cosmétique destiné, et Florence l'a dit, le contexte d'apparition de la modernisation écologique était différent, y compris en Allemagne, de la crise que nous connaissons aujourd'hui depuis 2008, et que donc, effectivement, l'optimisme un petit peu naïf de la modernisation écologique doit être retouché, de quelques nuances de gris, si j'ose dire, et surtout le côté brutalement néolibéral du premier paradigme doit être mis en question. Toutefois, je dirais, pour conclure, j'espère que je n'ai pas dépassé, pour conclure, je dirais que cette inflexion en direction d'une théorie de la pratique qui reste peut-être à être précisée est au moins prometteuse. Et je pense effectivement qu'on a souvent reproché, vous avez discuté de ça hier, je crois, je ne pouvais pas être là, mais au fond, je veux dire, dans cette histoire de modernisation, il y a un couplage avec la critique, puis un découplage, et puis ce retour, au moins partiel. Et la question, effectivement, que je me suis posée dès le... je ne me suis pas posée tout seul, c'est parce que c'est la réalité qui et la réalité des agents sociaux qui me l'a renvoyée directement à la figure. C'est-à-dire que si vous essayez, en gros, d'objectiver ces choses-là, je persiste à utiliser ce terme, le travail sociologique consiste à se demander comment on peut sociologiser une prise de position en faveur de la nature, entre guillemets, etc., vous disqualifiez immédiatement ceux qui veulent protéger, conserver, modérer la nature ou modérer notre utilisation des usages naturels. Et donc vous êtes du côté des éco-sceptiques, voire du côté de l'horrible Claude Allègre, Oresco, Référence. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment, bien au contraire. Je pense qu'effectivement, il faut le reconnaître, même si je continue de me réclamer de ce label, de cette bannière, il y a dans la sociologie critique une dimension d'ontologie négative ou de philosophie négative dans la relation qu'elle construit entre certaines formes d'idéologie écologique et des intérêts de classe. Je crois que la négativité critique est un moment nécessaire de l'année sociologique, et bien entendu, ce n'est pas le moment final. Depuis les travaux très anciens de Luc Boltanski sur la bonne volonté écologique, jusqu'aux travaux de Jean-Baptiste Combi et de Mathieu Grosstedt, beaucoup plus récents, ces travaux nous rappellent qu'il existe des écarts considérables entre la dimension ostentatoire de l'engagement écologique et la réalité des pratiques. Une bonne partie des injonctions environnementales à l'adresse des classes populaires reproduit les schèmes classiques qui consistent à blâmer la victime. La constitution d'un consommateur écologiste critique, qui est évidemment un excellent objectif, passe par l'analyse des obstacles à la constitution de véritables problèmes publics, pour parler comme Joseph Gusfield. Et pour moi, un problème public est un problème qui doit engager tout le public et non pas seulement sa fraction la mieux dotée en capital de toutes espèces. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation parfaitement dans les temps, très claire et passionnante. Je souriais d'autant plus qu'à midi, on a eu une discussion un petit peu enflammée en déjeunant sur cette question où je me suis fait presque traiter de climato-sceptique. Donc je vous remercie d'autant plus. Je vais passer la parole donc à Jean-Baptiste Combi pour parler justement d'éco-citoyenneté. Et je crois que ce regard critique sur les questions d'environnement et sur la façon dont elles sont construite idéologiquement, socialement, est d'autant plus importante que elle passe par une évacuation totale du social, des enjeux sociaux, des enjeux économiques aussi, et que j'ai aussi la sensation que le sociologue n'est pas toujours armé du fait de sa position pour en voir tous les ressorts idéologiques, Et donc, je crois que c'est d'autant plus important de défendre cette approche critique sur les questions d'environnement et de gestion des ressources naturelles à un autre niveau aussi, du fait de l'écart qu'il y a entre la réalité de l'exploitation des ressources et le discours qui peut être prôné au nom de sa protection, de leur protection, pardon. Et ensuite, on passera au débat. Donc, je vous laisse la parole sur l'éco-citoyenneté.
Bonjour à tous. Donc, je remercie également les organisateurs de cette session et du RT 38 de me permettre de venir discuter de ces enjeux importants. Et je suis à la fois flatté et content d'intervenir après les deux présentations précédentes qui effectivement ont bien cadré ma présentation qui elle sera peut-être un peu plus terre à terre et qui dans un registre peut-être plus illustratif. À en croire les injonctions éco-citoyennes, qui ne sont d'ailleurs pas inédites, mais qui se sont démultipliées depuis une dizaine d'années, je donnerai deux, trois clés d'explication à cela, il conviendrait dorénavant de rouler modérément, de minimiser le recours à l'automobile, de trier ses déchets, de préférer les douches au bain, de manger des fruits de saison, etc., pour prétendre à un comportement citoyen. À défaut, on encourt le risque d'être taxé d'insouciance, d'irresponsabilité, d'inconscience, voire d'égoïsme. Ce qui est intéressant avec l'éco-citoyenneté, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'il s'agit simplement de la partie émergée d'un iceberg individualisant qui se traduit, en tout cas les programmes de modernisation écologique s'accompagnent de tout un tas de mesures très prégnantes, notamment sur la question des enjeux climatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, un registre de politique publique dite incitative qui consiste en fait à gouverner les conduites individuelles. Dans l'espace du débat public, en particulier dans les journaux télévisés, la manière dont ces questions sont traitées par les journalistes, on a affaire là aussi à une construction de l'information qui a pour enjeu de sensibiliser le plus grand nombre. Par exemple, sur la question climatique, ce que j'ai montré, c'est que plus on parle du climat dans les médias, plus on parle des conséquences des changements climatiques et moins on parle des causes. Et les journalistes expliquent très clairement que c'est pour sensibiliser et poursuivre l'effort gouvernemental. Donc, je passe assez vite là-dessus. J'ai fait quelques publications auxquelles je me permets de renvoyer. plus largement, on peut aussi réfléchir. Enfin, je trouve intéressant de penser la construction sociale des problèmes publics en termes de lutte normative. Je m'appuie là sur une réflexion de Lilian Mathieu. La définition principale d'un problème qui s'impose, c'est elle est toujours portée par un groupe social qui, en imposant cette définition du problème, impose aussi ses propres valeurs, ses propres normes. Hein. Donc, voilà, ça c'est un peu le cadrage, la perspective théorique. Donc, ce que je voudrais discuter ici, c'est de la façon dont les prescriptions, la rhétorique éco-citoyenne participent à la conservation d'un ordre social, ordre social inégalitaire. Bon, alors j'ai mis peu écologique, je devais être de bonne humeur ce jour-là, ou généreux, mais on pourrait dire un ordre social dévastateur pour la planète. Alors, qu'est-ce que j'entends par ordre social ? C'est important à préciser. On peut distinguer deux facettes indissociables de l'ordre social. L'une correspond à l'État sur une période et un territoire donné des relations entre les groupes sociaux, et l'autre renvoie au mécanisme qui, en structurant la distribution des richesses matérielles et symboliques, ordonne ces relations entre les groupes sociaux de façon plus ou moins égalitaire et hiérarchique. Et donc, ce qui est intéressant à l'éco-citoyenneté, c'est que ça nous permet de questionner deux contradictions constitutives de l'ordre social capitaliste, celle des inégalités d'une part, et celle de l'accumulation illimitée du capital ou des capitaux dans un monde aux ressources naturelles limitées. Déjà, on parle tout le temps de problèmes écologiques, de problèmes environnementaux, c'est quelque chose qui va de soi, hein, de qualifier ces problèmes-là d'environnementaux et d'écologiques. Bon. En fait, on peut aussi se dire que ce sont avant tout des problèmes sociaux, bien plus que des problèmes environnementaux, puisque par exemple, avec la question climatique, ce qui est en jeu, ce sont des volumes trop importants d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Or, l'ampleur de ces émissions s'accentuerait et s'accélérerait du fait de l'organisation des activités humaines, caractéristiques des sociétés occidentales contemporaines, dont les structures de production et de consommation sont façonnées selon les logiques industrielles et financières, qui imposent un agencement des rapports sociaux sur un mode concurrentiel. Et donc, on voit bien que le vrai problème, il n'est pas environnemental. Enfin, il est social, c'est un problème social, il devait être des conséquences sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Donc ça, c'est déjà une première façon de conforter, de conserver, de préserver l'ordre social, le fait de qualifier les problèmes d'environnementaux plus que de sociaux. La manière dont l'éco-citoyenneté conforte un ordre social inégalitaire et peu écologique, c'est évidemment lorsqu'elle a pour conséquence de détourner l'attention des causes sociales, politiques, collectives, des enjeux donc dits environnementaux. Premièrement, donc on a affaire à des problèmes publics qui sont fortement individualisés. Hein. Les responsables du problème, ben c'est nous tous, c'est les Français, c'est les individus au quotidien dans leur sphère privée, domestique. Et donc le problème n'est plus de l'ordre du débat public, du choix collectif, de l'argumentation idéologique, politique, etc. Donc là, on rejoint ce que tu disais, Florence, sur la dépolitisation. Et la deuxième courroie symbolique de cet ordre social, c'est lorsqu'elle favorise la reproduction de styles de vie pollueurs dont la critique se trouve désarmée justement par cette rhétorique des petits gestes. On verra comment. En tout cas, ça aboutit à une conservation des modes de répartition des privilèges tout à la fois patrimoniaux et moraux, ainsi qu'à un renforcement des critères établis de la réussite, hein, de ce qui est valorisé, il faut aller vite, il faut avoir beaucoup, etc. Alors, mon propos va s'appuyer sur deux terrains que j'ai menés. Le premier, c'était dans le cadre de ma thèse. Donc, j'ai travaillé sur la construction publique du changement climatique, comment c'est devenu un problème important, mais j'ai également travaillé à la façon dont les individus, les membres des différents groupes sociaux, appréhendaient la question climatique telle qu'elle était cadrée dans le débat public. Donc là, j'avais fait un certain nombre d'entretiens, et j'avais aussi retraité des données statistiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et puis, cette intervention s'inscrit aussi dans le cadre d'une recherche collective financée par l'ANR, donc, qui s'intitule « Les ressorts sociaux de la conversion écologique ». On est à mi-parcours. Et donc un travail qui est mené en très grande partie donc, par Mathieu Grostet, dont a parlé Jean-Louis Fabiani, avec qui je travaille, avec qui j'ai pas mal publié sur ces questions-là, qui est là. Également Philippe Coulongeon et Ivaïlo Petef et Johan Demoli étant là aussi, j'en parlais tout à l'heure, qui sont membres de l'Observatoire sociologique du changement à l'IEP de Paris. Bon, et donc, alors, je ne détaille pas, vous avez les données à afficher. Donc, l'hypothèse que je voudrais travailler ici, hein, c'est d'essayer de voir si la rhétorique éco-citoyenne ne met pas l'ordre établi à l'abri des critiques en alimentant le sentiment que les problèmes dits écologiques sont pris en charge, sans qu'il soit besoin de redéfinir en profondeur les modes de production et de consommation dominants, ni la philosophie sociale qui les justifie. Donc d'une certaine façon, il me semble, alors je ne sais pas si Florence et Jean-Louis vous serez d'accord avec moi, mais que l'éco-citoyenneté, c'est un peu le versant symbolique de la modernisation écologique, ou on pourrait dire la modernisation écologique du côté des modes de consommation. Donc, mon propos sera en deux parties. Dans un premier temps, j'essaierai de mettre en évidence le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, ce qui implique de travailler indissociablement sur les rapports pratiques et symboliques à ces prescriptions éco-citoyennes, parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'on est soucieux de l'environnement quand on prend l'avion toutes les semaines, qu'on a une villa ou deux à chauffer, à éclairer et qu'on roule en gros cylindré, que de dire qu'on est sensible à l'environnement quand on ne se déplace jamais, qu'on vit dans un logement exigu, etc. Donc il est important d'avoir le pratique et le symbolique ensemble. Et puis dans un deuxième temps, je montrerai en quoi l'éco-citoyenneté est, contre toutes les apparences bien soignées, socialement orientées et pas du tout neutres, malgré ce qu'on peut en penser. Parce que ses promoteurs en disent, en tout cas. Alors, bon, je vais passer très vite là-dessus. On pourrait dire plein de choses sur les inégalités d'exposition des nuisances environnementales, qui, elles, sont assez bien documentées, y compris en France, et les inégalités de contribution aux nuisances environnementales, donc qui pollue en fait, et là on a beaucoup moins de données, beaucoup moins de choses. C'est souvent quelque chose qui passe à la trappe. Or, à mon avis, il faut essayer de penser les deux ensemble. Bon, mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est l'idée que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on rencontre des individus qui sont, de par leurs conditions matérielles d'existence, disposés à polluer. Et à l'inverse, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on rencontre des personnes que je qualifie un peu de c'est un peu essayiste, mais bon, que je qualifie d'écologistes à leur insu. Alors, il faut faire flèche de tout bois avec les données statistiques dont on dispose, c'est pas évident, pour essayer justement de voir comment les pratiques énergétiques ou les pratiques polluantes se distribuent socialement. Alors bon, mais c'est justement d'ailleurs tout le travail des collègues de l'OSC, dont Johan ou Philippe Coulongeon, Yvaï Lopetev, que de dresser justement un espace social des émissions carbone, en retraitant des données INSEE. Donc ils sont en cours, j'évoquerai plutôt quelques premiers résultats qu'ils mettent en évidence et qui confirment ce que j'avais pu observer à partir de données INSEE, notamment, ou des données de la Pure aussi, les ateliers parisiens d'urbanisme, etc. Bon. Donc, quelques données très rapidement. Bon, en termes d'équipement électroménager, mais aussi en termes d'usage, c'est-à-dire que les cadres et professions intellectuelles supérieures, d'après les données de l'INSEE, déjà sont plus équipés, et puis en plus, ça les embête moins de faire tourner de la vaisselle quand il est à moitié plein, alors que dans les milieux populaires, ils sont quand même plus soucieux. Bon, alors c'est des tendances, bien entendu, mais tendance assez forte, puisque c'est sur des données INSEE. Pareil pour les multi-équipements automobiles, on a des écarts assez significatif. Je reviendrai sur la voiture dans un instant. Sur les superficies à chauffer et à éclairer, là aussi, on a des écarts assez importants entre les deux extrêmes de la hiérarchie sociale. Ce que montre Johan, d'ailleurs, il a présenté ça ce matin dans un RT, c'est que les consommateurs de 4x4, ils sont pas situés n'importe où socialement, et en plus, ce sont de forts consommateurs d'espace. Et puis, par ailleurs, il a aussi... produit des données sur les usages de la climatisation, montrant que finalement c'est dans les milieux supérieurs qu'on est le plus dépendant de la climatisation, ce qui renvoie au rapport au corps, à la sensibilité au sens primaire du chaud et du froid, etc. Bon. Philippe Coulongeon et Yvaï Lopetev, dans un article qu'ils ont sorti récemment dans l'économie et statistiques, montrent également que malgré la banalisation de l'automobile, la voiture reste, et les formes d'acquisition et d'usage de la voiture restent des marqueurs sociaux fortement distinctifs. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui me semble très important et très difficile à faire, je ne sais même pas si ce serait possible, c'est compliqué en tout cas, c'est de toujours penser ça, j'y reviendrai tout à l'heure, de façon cumulative, pour avoir affaire non plus à des gestes compartimentés, des comportements compartimentés, mais pour pouvoir penser en termes de style de vie au sens de Bourdieu. Alors, on a vu là les inégalités pratiques face aux émissions de gaz à effet de serre, maintenant, je vais m'intéresser aux inégalités symboliques face aux normes éco-citoyennes. Ce qu'on a pu observer avec Mathieu Grosstedt, c'est que l'ajustement des principes les prescriptions éco-citoyennes sont particulièrement, sont mieux ajustées en tout cas à l'éthos des classes supérieures. D'une part, les membres des groupes sociaux privilégiés, qui sont aussi les plus, bien souvent assez fortement dotés en capitaux scolaires, font preuve d'une aisance plus régulière à appréhender les dimensions moins immédiates des enjeux, donc l'environnement, le long terme, le lointain. Ça les gêne pas trop, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils peuvent toujours dire « voyons, en Chine, j'ai vu ça ». C'était moins le cas, évidemment, dans les milieux populaires. Par ailleurs, ces gens-là, les membres de cette catégorie sociale-là, affichent avec davantage de constance leur souci leur préoccupation écologique. Ils font valoir leur bonne conscience écologique, leur bonne volonté écologique, pour reprendre l'expression de Bodlansky dans les années 70. Alors, c'est un extrait d'entretien assez caricatural, mais qu'on retrouve beaucoup, alors peut-être pas de façon aussi explicite, mais alors je vais vous lire. Donc, c'est un cadre supérieur qui est responsable commercial dans une entreprise informatique, qui travaille dans le 8e arrondissement de Paris, qui habite dans le 7e et qui roule en gros cylindré BMW, mais c'est sa voiture professionnelle et la moins polluante de la gamme, paraît-il. Et donc il me dit, ce n'est pas vraiment le prix qui me fait changer, c'est plutôt la conscience de la pollution. On va dire que j'utilise moins ma voiture pour moins polluer. J'en ai conscience, alors que je ne suis pas persuadé que tous les Français en ont conscience. Ils en ont conscience uniquement par le fait que le prix du pétrole a doublé, voire triplé, et il va continuer à augmenter. Et c'est l'unique cas de conscience, alors que moi, c'est plus un cas de conscience lié à la pollution. Donc, je poursuis là-dessus. Également, dans ces fractions sociales-là, la pédagogie, la sensibilisation, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisé, normal, la transmission des bonnes valeurs, l'éducation, c'est ce qu'il faut, les médias, l'école, etc., c'est ce qu'il faut pour promouvoir les comportements vertueux. Donc, du coup, l'éco-citoyenneté, ça correspond très bien à ça. Donc, ce chirurgien qui nous dit il nous faut une éducation, quelqu'un qui dit qu'il y a un dangereux problème aujourd'hui. Et comme aux enfants, ça, on apprend l'alphabet, il faudra apprendre les bons réflexes aux gens. On observe que, et je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure, que les membres des classes supérieures présentent comme général leur intérêt particulier à la réforme lente, douce des mentalités, pour une réforme qui, du coup, ne stigmatise ou ne dénonce pas trop brutalement leur mode de vie et donc l'organisation sociale qui rend possible ces modes de vie. À l'autre bout de l'échelle sociale, on a des discours sur les coûts de l'adoption des comportements promus, le coût du bio, le coût des travaux dans le logement, etc. On a donc aussi une croyance plus forte dans les dispositifs de pénalisation financière. C'est ce jeune ouvrier de Platrier qui me dit « Je vais te dire quand il fera quelque chose, l'individu, on s'est entendu, c'est quand il sera touché au portefeuille. C'est une question d'argent, quelque part. » Donc, dans ces gens-là, quand on leur demande finalement pourquoi ils font des économies d'énergie ou attention à la planète, la justification première, c'est une justification évidemment économique. Certains font attention à leur portefeuille plus qu'à la planète, ce qui ne leur empêche pas de faire attention à la planète en même temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conscience que c'est bien, mais c'est second d'ailleurs le côté écologique. La gratification écologique n'est pas première. Donc là, je passe vite, je n'ai pas forcément le temps, mais c'est une discussion entre un employé de mairie et un cheminot. Ils discutent sur les coûts économiques des bonnes pratiques écologiques. Donc, alors juste un mot, on est encore en train de travailler de ça avec Mathieu, mais c'est sûr, à propos des catégories sociales intermédiaires, ce qu'on observe là, c'est la variabilité des pressions normatives et des différences d'appréhension de l'éco-citoyenneté, selon notamment les trajectoires ascendantes ou descendantes, qui ont un effet visiblement, il nous semble, assez fort, même si on doit encore creuser ça. En tout cas, ce qu'on a observé, c'est que d'un côté, dans les fractions supérieures des classes moyennes, on a une bonne volonté, avec beaucoup de raisonnements comptables. J'ai fait ça, ça va me rapporter tant, j'ai déduit fiscalement ça, etc. Ça marche bien, on retrouve vraiment ces histoires-là. Et puis, dans les fractions moins inférieures des classes moyennes, c'est une adhésion à Eclipse. Oui, je fais attention de temps en temps, par phase, mais c'est beaucoup moins soutenu. Bon. En tout cas, pour conclure sur cette première partie, ce qu'on observe, c'est que le faible écho de la rhétorique éco-citoyenne, que rencontre la rhétorique éco-citoyenne auprès des milieux populaires d'une part, et sa congruence avec la morale des classes supérieures d'autre part, aboutit donc à une logique socialement paradoxale, c'est-à-dire que ce sont ceux dont les styles de vie sont les moins respectueux de l'environnement qui sont aussi les mieux disposés à glaner des gratifications symboliques offertes par les prescriptions éco-citoyennes. Et ce, d'autant que, j'en reviens du coup à ma deuxième partie, que derrière l'universalisme affiché par les producteurs de ces discours normatifs, ces discours sont en fait pas neutres du tout, dans la mesure où ils servent les intérêts des catégories qui dominent déjà le jeu social, et ce que je vais essayer de montrer en quelques minutes. Alors ça, je passe, parce que j'ai vraiment pas le temps. Dire que ces producteurs de discours, déjà, ils insistent sur le fait de s'adresser à tout le monde. Directeur de communication de l'ADEME qui me disait une bonne campagne, c'est une campagne capable de toucher un maximum de personnes avec un discours qui ne choque pas les plus pauvres ou les plus riches. Donc c'est tout un tas de dispositifs comme le climat, le bilan carbone ou plus récemment le clutch carbone qui sont des dispositifs au service de l'homo ecologicus, c'est-à-dire qu'il y a derrière une conception de l'individu qui, s'il est en situation d'information pure et parfaite, va se comporter de façon homo écologique, donc ça, enfin de façon rationnelle d'un point de vue écologique. Donc là, moi j'ai pas mal travaillé sur tous les gens qui construisent ça, ces ingénieurs sociaux qui produisent des études des baromètres ou les psychologues sociaux qui diffusent et qui alimentent, qui donnent une caution pseudo-scientifique à ces raisonnements-là. Mais donc, on insiste sur le fait que voilà, l'éco-citoyenneté, ça concerne tout le monde. Donc ça se traduit par une mise en scène assez particulière. On met en scène des individus, enfin une famille, là en l'occurrence, donc ça c'est la campagne, enfin, c'est sur le site de l'ADEME, le Clutch Carbone. Donc une famille dont tout indique qu'elle appartient aux classes moyennes supérieures. Voilà, un couple, trois enfants, qui loue un pavillon avec jardinet, qui prend l'avion, mais occasionnellement, de temps en temps, pour partir en vacances, etc. Donc déjà, voilà, on affiche un universalisme. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, toutes les propositions discursives socialement marquées sont systématiquement évacuées de tous ces messages. C'est par exemple le cas d'une campagne dont l'orientation éditoriale aurait consisté à pointer du doigt un attribut distinctif des groupes sociaux les mieux dotés. C'était une campagne dont le slogan était arrêtons de financer l'effet de serre. Et il y avait des images de 4x4. Ou une autre campagne qui était fini le 4x4 en ville et qui n'a jamais été produite parce que c'était trop stigmatisant, c'était pas possible pour l'État en l'occurrence là. Mais on va voir qu'on retrouve ça dans d'autres lieux de production de ces normes éco-citoyennes. Donc on a une vision asociale du problème qui est renforcée par un discours focalisé sur des comportements isolés les uns des autres. Alors ça me paraît assez important. C'est-à-dire que les supports de communication que j'ai étudiés déclinent des messages qui sont toujours dédiés à un geste en particulier, lequel est présenté comme exemplaire. Autrement dit, la manière dont les messages sont mis en forme contribue à parcelliser les différents actes du quotidien, s'habiller, se laver, manger, se déplacer, faire ses courses, définir un projet de vacances ou d'investissement immobilier, etc., sont autant de comportements et de décisions qui sont appréhendés séparément. Donc voilà, par exemple, ça s'illustre comme ça, dans ce genre de d'imagerie, voilà. Et donc, du coup, j'ai loupé un slide, je ne sais pas trop où il est. Mais du coup, cette logique rhétorique-là n'invite pas du tout à penser justement de façon cumulative les différents gestes et donc de penser en termes de style de vie, comme je le disais tout à l'heure. Donc au final, probablement parce qu'elle est menée par des professionnels de la sensibilisation appartenant eux-mêmes aux fractions supérieures de la société, cette entreprise de moralisation du quotidien est structurée de telle sorte qu'elle masque les contradictions entre, d'un côté, les valeurs et styles de vie fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais légitimes dans ces milieux, et de l'autre, la bonne conscience écologique dont leurs membres se prévalent. Je conclue en deux minutes, juste dire quand même que c'est très important de prendre aussi au sérieux ces choses-là, parce que pour ces gens-là, ils ne peuvent pas entendre, et puis en même temps ils rendent inaudibles les constats d'un conservatisme social matiné d'un fort conformisme, parce que pour eux, ces évolutions, cette modernisation écologique, s'apparentent à de véritables bouleversements. Enfin, quand on discute avec des gens du bâtiment qui doivent revoir toutes les régulations thermiques, etc., pour eux, on a révolutionné la planète, quoi. Donc il faut voir aussi que ça génère des sensations de changement très profond. Et donc pour finir en trois points, si la sociologie a pour ambition de comprendre le fonctionnement du monde social, il me semble dès lors utile de comprendre comment un ordre social se maintient en intégrant et en digérant les tentatives visant à le défaire, ce qui est aussi une façon d'interroger en creux les conditions de possibilité d'une révision substantielle des modes de fonctionnement d'une société. Dans cette perspective, l'éco-citoyenneté permet d'analyser empiriquement les mécanismes par lesquels la critique écologique du capitalisme et des modes de production et de consommation inhérents à ce système peut se retrouver désarmée, cette critique, au profit des hiérarchies sociales existantes et donc des groupes sociaux dominants dont on perçoit qu'ils conservent de la sorte le monopole de la définition des styles de vie valorisés et légitimes. Plus généralement, l'analyse sociologique des problèmes dits environnementaux ne me semble pas pouvoir ne pas poser la question du rapport au capitalisme des agents, pratiques, raisonnements, discours et dispositifs étudiés, sauf à prendre le risque d'être elle-même, cette analyse, pensée par cette idéologie dominante. Je m'arrêterai de là. Merci pour votre attention.